Madame Durand, la CNUSSET qui lance un nouveau rapport et qui demande que les pays les plus pauvres du monde devraient jouer un rôle de premier plan et s'orienter l'aide extérieure vers le pur développement. C'est-à-dire quoi? C'est une critique de toute la politique de développement menée par ces pays depuis quelques années?
Ce n'est pas une critique. D'ailleurs, à quoi servirait simplement de faire une critique? Ce qui est mis en évidence dans ce rapport, c'est quels sont aujourd'hui à la fois les montants qui sont consacrés à l'aide au développement et la manière dont ils deviennent de plus en plus complexes, compliqués, difficiles à gérer, en particulier pour les gouvernements des pays les moins avancés et qui du coup sont un peu les témoins ou les spectateurs de quelque chose qui est décidé ailleurs. Et donc nous appelons dans ce rapport à la fois les pays les moins avancés d'être eux-mêmes ceux qui pilotent la mise en œuvre et du côté des donateurs, les pays donateurs, d'être ceux qui tiennent compte du besoin non seulement de faire du social ou de la lutte contre la pauvreté, ce qui est évidemment prioritaire, mais de le faire au travers du soutien à un vrai changement structurel de l'économie de ces pays pour leur permettre d'être à même, à terme, de pouvoir porter eux-mêmes les politiques qu'ils décident.
Quand vous dites de faire un vrai changement par rapport aux priorités de développement, c'est-à-dire que les filets de lutte contre la pauvreté, ce n'est plus une priorité pour la CNUSSET, c'est qu'il faut miser sur l'infrastructure, les industries sources de revenus.
C'est-à-dire qu'on fera du social aussi au travers du changement structurel. On peut aider mieux un pays, par exemple, à collecter des impôts, à avoir des investissements extérieurs, à créer des emplois et de l'activité. C'est aussi une façon de faire du social. Et donc, ce n'est pas le social contre les capacités productives, mais c'est les capacités productives pour faire du social. Les capacités productives, en tant que telles, n'ont aucun intérêt si elles ne servent pas à servir les gens. Et à servir les gens, entre autres, en luttant contre les inégalités. Et donc, ce sont les deux. Simplement, on a parfois le sentiment que dans l'aide au développement, il est plus facile pour un pays donateur de défendre une politique qui aide sur le social, qu'une politique qui transforme l'économie d'un pays. Pourtant, transformer l'économie d'un pays, c'est aussi faire du social.
Et quand le rapport montre que 45% de l'aide totale est destinée à des activités sociales, est-ce que quelque part, ça nous enseigne quoi? Ça nous dit quoi par rapport à la politique de développement de ces pays?
Mais ça nous dit qu'on devrait inverser la proportion et permettre de mettre l'accent sur le changement profond du pays, dans sa manière, par exemple, de devoir rembourser sa dette. Ça n'a l'air de rien, mais comment voulez-vous faire des politiques sociales si vous êtes endetté et si votre dette explose? Comment voulez-vous faire des politiques de réduction de la pauvreté si, par ailleurs, vous n'avez aucune infrastructure? Comment voulez-vous développer de l'e-commerce si vous n'avez pas de connexion à Internet, etc., etc.? Et donc, le travail structurel est impératif. Ce n'est pas contre le social, simplement, ce rapport établit des chiffres et essaye de voir avec lucidité où sont les flux financiers de l'aide et il identifie ces 45%. Mais nous pensons que c'est trop au sens où la balance entre les choses structurelles et de long terme et l'aide sociale qui est extrêmement importante mais qui, elle, doit un jour s'arrêter. En principe, elle devrait un jour s'arrêter. Il faudrait qu'elle puisse tout simplement être à la charge d'un pays qui passe de la catégorie de pays en développement, de pays moins avancé, à un pays émergent, à un pays capable de mener lui-même ses propres politiques avec ses deniers propres. On n'en est pas encore là, bien sûr.
Dans cette dynamique, quelles sont vos recommandations aux ONG, aux fondations, aux philanthropes qui misent beaucoup sur le social dans ces pays en développement?
Ils ont raison, hein, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas miser sur le social. Je dis simplement que l'ensemble de ces acteurs, et en particulier, on vise les donateurs, quand on vise les donateurs, on vise plutôt les États donateurs que les fondations ou autres, mais les fondations et autres devraient aussi développer une approche plus systémique, c'est-à-dire une approche où le social est une part des éléments du développement. Et si on ne soigne pas toutes les parties du développement, si on ne s'intéresse pas, par exemple, au changement climatique, qui n'a à la limite rien à voir avec le social, et pourtant, les effets du changement climatique sur les sécheresses, les inondations et donc la mobilisation de ressources pour corriger ces problèmes, la sécurité alimentaire et tout ce qui en découle, s'intéresser au changement climatique, c'est aussi faire du social. Et donc je pense que l'approche plus systémique de l'ensemble des causes qui font qu'un pays est en difficulté pour pouvoir honorer la dignité de chacun de ses habitants et la dignité sociale de chacun de ses habitants, les causes sont aussi importantes que les effets.
Une question par rapport maintenant à la dette. On voit que le service de la dette est passé de 146 milliards à 313 milliards entre 2007 et 2017. Y a-t-il une explication? Y a-t-il un pays qui aide plus, fait plus de crédit à ces pays ou bien une autre explication de la CNUSSET par rapport à cette augmentation vertigineuse de la dette?
Les choses sont multiples parce qu'on ne peut pas mettre tous les pays moins avancés dans le même panier, si je peux dire. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble de ces pays sont tous exposés à une augmentation de leur dette et une des raisons que nous y voyons, c'est le fait qu'on travaille plus par prêt et donc en particulier dans la coopération Sud-Sud et en travaillant par prêt, évidemment, que quand on prête de l'argent, il y a des taux d'intérêt et donc il y a évidemment un risque d'endettement plus grand. C'est un un élément. L'autre élément, c'est l'insuffisance aussi d'investissement. Les investissements étrangers sont en diminution, y compris et surtout dans les pays les moins avancés, parce que ça apparaît comme des endroits pas intéressants pour l'investisseur ou pas suffisamment intéressants en termes de retour sur investissement. Et donc, pour ces raisons, on a un emballement de la dette qui expose ces pays à de potentielles graves conséquences.
Dernière question, on voit qu'il y a toujours cette même recommandation qui revient chaque année par rapport au rapport sur les paiements, c'est par rapport aux engagements des pays donateurs pour respecter leur engagement de 0,15% à 0,2% de leur produit intérieur brut. Est-ce que vous pensez réellement que cet objectif sera atteint un jour?
Écoutez, je n'en sais rien, mais ce que je peux dire, c'est qu'il serait quand même anormal que nous tous, la communauté internationale et singulièrement la CNUSET, considèrent une fois pour toutes que bon, finalement, ces engagements ont été pris, on ne doit pas le respecter. Non. Je veux dire, même s'il est difficile à atteindre, même si je ne sais pas s'il sera un jour atteint, il faut répéter l'importance qu'un engagement pris doit être un engagement honoré. Comment voulez-vous développer une relation de partenariat et de confiance si d'un côté, on ne tient pas les engagements pris? Ça vaut bien sûr des deux côtés. Une relation de confiance, ça se construit bilatéralement. Néanmoins, ça exige aussi de la part de ceux qui se sont engagés d'honorer leurs engagements. Et nous continuerons de le dire, même si ce ne sera pas la seule chose qu'on dira, mais on continuera de le dire.
Merci beaucoup.